Chapitre 29. À Bandar Eban. Moi règne d'Amodred, morte à cause de ma faiblesse. Rand fit passer Taïda Ishar au pas, tandis qu'il traversait les impressionnantes portes de Bandar Eban. Alors que sa suite chevauchait derrière lui, des colonnes d'Aiel le précédaient. À ce qu'on disait, les portes arboraient les armes de la ville. Comme elles étaient grandes ouvertes, ça ne pouvait pas se voir. L'inconnu que j'ai décapité dans les collines du Mourandi. J'ai oublié le visage des suppôts des ténèbres qui l'accompagnaient, mais le sien restera gravé dans ma mémoire, même si elle était des leurs. La liste s'égrenait dans sa tête, un rituel presque journalier désormais, le nom de toutes les femmes mortes de sa main ou à cause de lui. À l'intérieur de la cité, la rue en terre battue était sillonnée d'ornières qui se croisaient aux intersections. Cola Verré, morte parce que j'ai fait d'elle une indigente. Rand dépassa plusieurs colonnes de Domani, les femmes en robe diaphane et les hommes, tous dotés d'une fine moustache, en veste de couleur vive. Les rues, ici, étaient munies de trottoirs en bois, et les curieux s'y pressaient, yeux grands ouverts. Dans le vent, Rand entendait claquer des étendards et des drapeaux. Il semblait y en avoir beaucoup. La liste commençait toujours par Moiraine. Son nom était le plus cruel, car il aurait pu la sauver. Il aurait dû, même. Il s'en voulait à mort de l'avoir laissé se sacrifier. Un gosse sauta du trottoir et voulut partir à la course, mais son père le retint par la main et le tira en arrière. Dans la foule, on tout sautait ou murmurait, mais personne ne parlait vraiment. En comparaison, le bruit des soldats de Rand faisait penser au tonnerre. Lan Fear était-elle toujours vivante? Si Ishamael avait pu revenir de la mort, qu'en était-il d'elle? Lan Fear de retour, le sacrifice de Moiraine aurait été vain, et la lâcheté de Rand en devenait encore plus méprisable. Plus jamais. La liste ne s'effacerait pas, mais il ne serait plus jamais assez faible pour ne pas faire ce qui devait être fait. Sur les trottoirs, la foule ne lançait pas de vivates. Eh bien, il ne venait pas en libérateur, mais pour faire ce qui s'imposait. Ici, il trouverait peut-être Grindal. Selon Asmodéan, elle était en Arad Doman. Mais cette information remontait à si longtemps. Si elle y était, ça soulagerait sa conscience, car il ne se sentait pas bien dans la peau d'un conquérant. Sa conscience? En avait-il encore une? Lia, des Kosaïda Charine, que j'ai tué en me persuadant que c'était pour son propre bien. Bizarrement, Loustérine se joignit à la litanie. Égrenant les noms, il faisait un étrange contrechamp dans la tête de son hôte. Devant Rand, un groupe d'Aiel l'attendait, sur une place où se dressait une fontaine de cuivre en forme de cheval jaillissant d'une vague ourlée d'écume. Un cavalier entouré d'une garde d'honneur attendait au pied de ce monument. Robuste, l'homme à la mâchoire carrée et aux joues ridées arborait des cheveux gris. À la mode des soldats kérieniens, il avait le front rasé et poudré. Dobrein. Un homme de confiance, pour autant qu'un kérienien pouvait l'être. Sendara, du clan de la montagne d'acier des Tardad. Lamel, du clan de l'eau fumée des Nyagoma. Andilin, du clan du sel rouge des Gauchiennes.
Iliena Terin Moirel, ajouta Loustérin.
Rand le laissa faire. Au moins, le spectre fou n'éclata pas en éructation.
« Seigneur dragon, »
dit Dobrein en s'inclinant lorsque Rand lui rejoint,
« je te livre la cité de Bandar Eban. L'ordre est rétabli comme tu me l'as demandé. »
« Je t'ai chargé de rétablir l'ordre dans tout le pays, Dobrein, pas seulement dans la capitale. »
Le noble tressaillit presque imperceptiblement.
« Tu as capturé un membre du Conseil des marchands ?»«
Oui, »
répondit Dobrein.
« Mulisaïr Chadmar. » La dernière à avoir tenté de fuir le chaos qui régnait en ville.
Les yeux de Dobrein brillaient de ferveur. C'était un des fidèles historiques de Rand. Mais ne jouait-il pas la comédie depuis le début? Ces derniers temps, le jeune homme ne se fiait plus à personne. Les plus grands alliés, au bout du compte, devaient être gardés sans cesse à l'œil. Et Dobrein était un kérienien. Pouvait-on faire confiance à un natif d'un pays où comploter était une forme d'art?
Moiraine était du kérienne, et je me fiais à elle. Plus ou moins.
Dobrein espérait-il que Rand le nommerait roi de la Arad Doman? Il avait été régent de Kaerien, mais comme presque tout le monde, il savait que Rand voulait voir Elaine sur le trône du soleil. Eh bien, Rand pouvait effectivement offrir la Arad Doman à Dobrein, un des meilleurs candidats possibles. Le jeune homme fit signe au futur souverain d'ouvrir la marche. Dobrein obéit, s'engageant avec sa garde d'honneur dans une large rue latérale. Rand le suivit tandis que la liste continuait à se dérouler dans sa tête. Dans cette ville, les bâtiments, grands et carrés, s'entassaient les uns sur les autres comme de vulgaires boîtes. Beaucoup possédaient des balcons qui débordaient de monde, comme les trottoirs.
Chaque nom inscrit sur la liste chagrinait Rand. Mais la douleur, presque étrangère à lui-même, était très lointaine désormais. Depuis le jour où il avait tué ses mirages, ses sentiments s'étaient modifiés. La rejetée lui avait appris à étouffer sa culpabilité et sa peine. Elle pensait l'enchaîner, en réalité, elle l'avait rendu plus fort. Sur la liste, il ajouta son nom et celui d'Elsa. Pourtant, elle n'avait aucun droit à y figurer. Plus qu'une femme, ses mirages étaient un monstre. Et Elsa, au service du ténébreux depuis toujours, avait tout d'une traîtresse. Pourtant, Rand avait ajouté leur nom. Après tout, elle pouvait l'accuser de meurtre autant que les autres. Et peut-être même plus. S'il avait refusé de tuer Lanfear pour sauver Moiraine, il avait recouru au torrent de feu afin de rayer ses mirages de la carte du monde et de la trame. Tout ça pour ne pas être de nouveau capturé. Rand tapota l'objet qu'il transportait dans une bourse accrochée à sa selle. Une figurine lisse. Ses domestiques avaient retrouvé dans la chambre de la légende, mais ils ne le lui avaient pas dit. Maintenant que Katsuane était banni de son entourage, il ne l'en informerait jamais. La sœur, il le savait, continuait à tourner autour de ses proches, jouant avec l'interdiction qui la frappait. Mais elle ne se montrait plus devant lui, et c'était suffisant. Il ne lui parlerait plus, et elle ne s'adresserait plus à lui. Katsuane avait été pour lui un outil qui se révélait inutile. Donc, pourquoi aurait-il regretté de l'avoir mise au rebut? Jendilin, promise du clan du Pic Froid des Miagoma, continua Rand, la voix de Lusterine faisant écho à la sienne. La liste était si longue, et elle grandirait encore avant qu'il meure. La mort ne l'inquiétait plus. Désormais, il comprenait le désir de crever de Lusterine. Et lui aussi, il méritait de mourir. Existait-il une fin si radicale qu'un homme ne risquait jamais de devoir renaître? Rand s'avisa qu'il avait atteint le bout de la liste. Naguère, il la répétait pour s'empêcher d'oublier ses noms. Aujourd'hui, ce n'était plus la peine. Même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu les rayer de sa mémoire. Cette litanie avait pour objet de lui rappeler qui il était. Lusterine, lui, avait un nom à ajouter.
Elmindreda Farcho.
Rand tira sur ses rênes, forçant ses aïels et les cavaliers du Saldaya à s'arrêter au milieu de la rue. Sur son étalon blanc, Dobrain se retourna, l'air perplexe.
« Je ne l'ai pas tué. Lusterine, elle vit toujours. Nous ne l'avons pas tué. Et tout ça, c'était la faute de ses mirages. »
Lusterine ne répondit pas. Rand sentait toujours ses doigts sur la gorge de Mine, ceux d'un manchot mais incroyablement fort. Même si ses mirages étaient responsables de ce moment-là, c'était lui, Randaltor, qui s'était montré trop faible pour renvoyer Mine et la mettre en sécurité. Pourtant, il l'avait gardée avec lui. Par faiblesse, mais surtout parce que, en lui, l'aptitude à protéger quelqu'un était morte. Ça n'avait rien à voir avec Mine. Il l'aimait passionnément, et il en serait toujours ainsi. Hélas, la mort, la douleur et la destruction marchaient dans son sillage, et il les portait sur ses épaules comme une traîne. Mine pouvait mourir ici, mais s'il l'envoyait au loin, elle serait tout autant en danger, parce que ses ennemis, très probablement, se doutaient qu'il en était amoureux. La sécurité, ça n'existait pas. Si elle mourait, il ajouterait son nom à la liste et souffrirait encore plus. Avant qu'on l'interroge sur son comportement, il talonna Taïda Ishar, qui recommença à marteler de ses sabots la terre gorgée d'humidité. Rand venait souvent à Bandar Eban. Première cité portuaire du nord-ouest, la ville n'égalait pas les mégalopoles du sud, mais elle restait impressionnante. Les rangées de maisons carrées en bois de deux ou trois niveaux à toit à colombage ressemblaient à des cubes d'enfants entassés les uns au-dessus des autres. En pente douce, ces demeures descendaient jusqu'aux abords de l'immense port. La ville étant encore plus grande que le port, de loin on avait l'impression de voir une tête d'homme géante en train d'ouvrir la bouche, comme si elle voulait avaler l'océan. Les quais étaient presque déserts, à l'exception de quelques trois mâts du peuple de la mer et d'une poignée de bateaux de pêche. Dans un port si grand, cette désaffection se révélait encore plus frappante. Le premier indice que tout n'allait pas bien à Bandar Eban. À part le port désert, le signe distinctif le plus frappant, c'était les étendards. Ils flottaient ou pendaient sur tous les bâtiments, même les plus humbles. Pour la plupart, ils signalaient le type de commerce qu'on pratiquait dans un édifice donné. À Kemlin, une simple enseigne de bois aurait suffi. Sur les toits, les étendards aux couleurs vives rivalisaient d'extravagance. Sur au moins un flanc de chaque bâtiment, un drapeau tout aussi audacieux annonçait en lettres de feu le nom du propriétaire et celui des artisans de chaque boutique individuelle. Même les habitations se paraient d'étendards au nom des familles qui y résidaient. Le teint cuivré et les cheveux noirs, les Domani adoraient les tenues aux couleurs vives. Partout dans le monde connu, les femmes étaient célèbres pour leurs robes assez fines pour friser le scandale permanent. Dès leur plus jeune âge, disait-on, ses beautés s'entraînaient à manipuler les hommes, en prévision de l'époque où elle passerait aux travaux pratiques. La foule qui se pressait sur les trottoirs, si bigarrée fut-elle, ne parvint pas à arracher Rand à ses sombres méditations. Un an plus tôt, il aurait peut-être ouvert de grands yeux, mais à présent, ça l'intéressait à peine. En fait, s'avisa-t-il, en masse, les Domani étaient beaucoup moins spectaculaires qu'individuellement ou par petits groupes. Dans un champ de mauvaises herbes, une fleur attirait toujours l'œil. Au milieu d'un parterre, aucune ne se distinguait des autres. Si distrait qu'il fût, Rand remarqua l'extrême maigreur de ces gens. Les joues creuses des adultes et le regard hanté des enfants ne laissaient aucun doute. Avant que Dobraine et les Aiel interviennent, la ville avait vécu dans le chaos. Plusieurs bâtiments en gardaient des traces sous la forme de fenêtres ou de portes brisées, et un grand nombre d'étendards portaient des accros récemment reprisés. La loi régnait de nouveau, mais sa longue absence se faisait toujours sentir. Rand et son escorte atteignirent un grand carrefour central. La place Arandi, comme l'annonçaient les incontournables étendards. D'un geste, Dobraine fit obliquer la colonne vers l'est. Une grande partie des Aiel qui accompagnaient le Kyrienien arborait le brassard rouge des Siswai Aman, les lances du dragon. Quelques 20 000 Aiel, commandés par Rouark, campaient autour de la capitale et dans les villes voisines. À cette heure, presque tous les Domani devaient savoir que ces guerriers combattaient pour le dragon réincarné. Rand se félicitait que les navires du peuple de la mer soient enfin arrivés du sud avec leur cargaison de grains. Avec un peu de chance, ça ferait autant de bien à l'ordre et à la loi que les interventions de Dobraine et des Aiel. La colonne s'engagea dans le secteur prospère de la cité. Longtemps avant que les maisons deviennent plus luxueuses, Rand aurait pu dire où les quartiers chics commençaient. Aussi loin que possible des quais, tout en restant à une distance confortable des murs d'enceinte. Sans consulter une carte, Rand aurait pu localiser les nantis. Un cheval arriva à hauteur de celui de Rand. Dans un premier temps, il pensa que Mine venait de le rejoindre, mais elle avança derrière lui, en compagnie des matriarches. Ne le regardait-elle plus de la même façon, désormais? Ou était-ce un tour de son imagination? En le voyant, se souvenait-elle du moment où il avait failli l'étrangler? Perché sur une jument grise, c'était Mérise qui chevauchait près de lui. Comme prévu, les Aes Sedai ne décoléraient pas à cause du bannissement de Katsuane. En principe, les Aes Sedai aimaient présenter une façade très sereine, mais Mérise et ses collègues avaient littéralement rampé devant la légende, pire qu'un aubergiste de village recevant la visite d'un roi. En ce jour, la Tarabonaise avait choisi de porter son châle, histoire d'afficher son appartenance à la Javert, et peut-être aussi pour réaffirmer et renforcer son autorité. Rand soupira intérieurement. Une confrontation était inévitable, il le savait, mais il avait espéré que les affaires en cours la différeraient assez longtemps pour que les passions s'apaisent. S'il respectait Katsuane, à sa façon, il ne s'était jamais fié à elle. Quand on échouait, il y avait des conséquences, et il se sentait soulagé d'en avoir terminé avec cette femme. Fini le temps où elle tissait inlassablement sa toile autour de lui. Enfin, presque fini.
« Ce bannissement, c'est de la folie, Randaltor !»
lâcha Mérise, sans cacher son dédain. Voulait-elle énerver Rand? Le rendre ainsi plus facile à manipuler? Après des mois à subir Katsuane, cette pâle imitation aurait presque pu être amusante.
« Tu devrais implorer son pardon !» continua Mérise. « Elle a consenti à nous accompagner, alors que ton inepte décision la force à porter un manteau, capuche relevée, malgré une chaleur accablante. Tu devrais avoir honte !»
Encore Katsuane. Il n'aurait pas dû lui permettre de graviter autour de lui.
« Alors ?»
demanda Mérise. Rand tourna la tête pour la regarder dans les yeux. Ces dernières heures, il avait fait une découverte stupéfiante. En étouffant la fureur qui se tapissait en lui, ce qu'il appelait « être en Quendillar », il était parvenu à un stade de lucidité longtemps resté hors de sa portée. Les gens ne réagissaient pas à la colère, ni aux exigences. L'alternance entre le silence et les questions se révélait bien plus efficace. De fait, même une Aes Sedai parfaitement formée comme Mérise tressaillait sous son regard inquisiteur. Rand n'y mettait aucune émotion. Sa rage, sa colère, sa passion, tout était là, mais profondément enfoui, comme enrobé de glace afin d'être paralysé. Cette glace, elle existait dans l'endroit où Sémiraj lui avait enseigné à aller. Une sorte de vide, mais en beaucoup plus dangereux. Mérise sentait-elle la rage glacée en lui, ou captait-elle autre chose? Devinait-elle qu'il avait utilisé ce pouvoir? À l'arrière-plan, Loustérine éclata en sanglots. Le fou réagissait ainsi chaque fois que Rand évoquait ce qu'il avait fait pour échapper au collier de ses mirages.
« Tu as décidé sur un coup de tête !»
avança Mérise.
« Tu devrais !»«
Tu me prends pour un crétin ?» demanda Rand d'un ton égal.
aux exigences répondre par le silence, et aux défis par des questions. Incroyable ce que ça fonctionnait. Maryse se tut et frissonna très visiblement. Puis elle baissa les yeux sur le sac dans lequel Rand transportait la figurine d'un homme brandissant une sphère. Laissant du mou à ses rênes, le jeune homme tapota l'artefact à travers le tissu. Il n'exhibait pas la statuette, se contentant de la garder avec lui. Mais Maryse et presque toutes les sœurs savaient quel pouvoir il était à même d'y puiser s'il le désirait. L'arme la plus puissante du monde et de l'histoire. Avec, il pouvait détruire l'univers. Pourtant, il restait sagement assis sur sa selle. Sur les gens, ce contraste faisait un effet fou.
Non. Non, je ne te prends pas pour un crétin. Enfin, pas toujours.
Crois-tu que l'échec doive rester impuni ? Ajouta Rand, toujours très serein. Pourquoi exposait-il si souvent par le passé ? Les tracasseries ne méritaient pas qu'il se déchaîne ainsi. Si un fâcheux l'ennuyait vraiment, il suffisait de le souffler comme la flamme d'une bougie. Une idée dangereuse, ça. Venait-elle de lui ou de Lustérine ? Ou d'aucun des deux, mais d'ailleurs.
« Tu as été trop dur, reconnais-le !»
insista Maryse.
« Trop dur ? Tu mesures sa faute ? As-tu réfléchi à ce qui aurait pu arriver ? Ce qui aurait dû se produire même ?»«
Je... » »«
La fin de tout, Maryse. Le dragon réincarné sous le contrôle du ténébreux. Lui et moi, dans le même camp. »«
Certes, mais des fautes, n'en as-tu pas commises ? Elles auraient pu provoquer un désastre similaire. »
Je paie pour mes erreurs, dit Rand en détournant la tête. Chaque jour, je m'acquitte d'un lourd tribut, heure après heure, avec chaque inspiration.
Je...
Assez.
Rand n'avait pas beuglé ce mot, le prononçant doucement, mais fermement. Un moyen de faire sentir à la sœur toute la force de son agacement. Elle se ratatina sur sa selle, les yeux écarquillés. Sur la gauche de la colonne, un craquement retentit, suivi par un bruit assourdissant. Alors que des cris s'élevaient, Rand regarda de ce côté. Un balcon bourré de curieux venait de se détacher d'une façade et de s'écraser dans la foule. Des gens gémissaient de douleur et d'autres appelaient au secours. Mais le bruit, en réalité, était venu des deux côtés de la rue. Un autre balcon, situé en face du premier, s'était aussi écroulé. Très pâle, Maryse fit volter son cheval et fila aider les blessés. D'autres sœurs l'imitaient déjà. Rand fit avancer Tai Daishar. Ces drames n'avaient pas été causés par le pouvoir, mais par sa nature de taverne, qui altérait les probabilités. Partout où il allait, des événements extraordinaires se produisaient, purement au hasard. Par exemple, un nombre inhabituel de naissances, de décès, de mariages ou d'accidents. Des péripéties qu'il avait appris à ignorer. Cela dit, il avait rarement vu une bizarrerie si violente. Avait-il la certitude que ce n'était en rien lié à la nouvelle force ? Ce réservoir invisible mais tentant, où il avait puisé du pouvoir, l'utilisant ensuite avec jubilation. Selon Lustérine, ça aurait dû être impossible. Si l'humanité avait fait une brèche dans la prison du ténébreux, c'était pour satisfaire sa soif de pouvoir, pour avoir accès à une nouvelle source d'énergie afin de mieux canaliser. Une force semblable au pouvoir de l'unique, mais pourtant différente. Inconnue, déconcertante et riche de promesses. Cette source, au bout du compte, c'était le ténébreux lui-même. Lustérine gémit comme un mioche. Si Rand transportait la clé d'accès, ce n'était pas pour rien. La figurine le liait à un des plus puissants Sangreal jamais créés. Avec cet artefact et l'aide de Ninevé, il avait purifié le Saïdin. La clé d'accès lui avait permis de puiser un fleuve de pouvoir, non, une tempête aussi vaste que l'océan. La plus extraordinaire expérience de sa vie. Jusqu'à ce qu'il ait goûté au pouvoir sans nom. Une force qu'il avait appelée, chantant pour lui et le tentant. Tant de puissance, tant de miracles divins. Mais il en avait été terrifié. Saisir encore ce pouvoir ? Non, il n'oserait jamais. Du coup, il ne se séparait plus de la clé. Sans pouvoir dire laquelle des deux sources d'énergie était la plus dangereuse, en s'exposant aux deux, il leur résisterait peut-être. Comme deux personnes criant pour attirer son attention, elle se neutralisait. Pour le moment. Cela dit, il ne porterait plus jamais un collier. La clé n'aurait pas pu l'aider contre ces mirages. Aucune quantité de pouvoir n'aidait un homme quand il était pris par surprise. Mais ça changerait peut-être à l'avenir. Naguère, il refusait de la porter, craignant ce qu'elle lui offrait. Mais il ne pouvait plus s'offrir des faiblesses pareilles. La destination du jour était facile à repérer. Armés jusqu'aux dents, quelques 500 kyrieniens étaient cantonnés dans les jardins d'une grande et majestueuse demeure. On y voyait également des tentes à yel, mais les guerriers avaient aussi investi des bâtiments adjacents et même des toits, Pour eux, camper quelque part et surveiller une zone ne faisait guère de différence. D'autant plus qu'un Aiel en train de se reposer restait deux fois plus vigilant qu'un soldat classique en patrouille. Rand avait laissé le gros de ses troupes hors de la ville. Pour les hommes qui l'accompagnaient, il confierait à Dobrain et à ses assistants le soin de trouver un hébergement décent. Rand tira sur les rênes de sa monture, puis étudia sa nouvelle demeure.
« Nous n'avons pas de nouvelle demeure, » souffla Loustérine, « parce que nous l'avons détruite, incendiée et fait fondre comme du sable dans des flammes. »
La maison était bien au-dessus de la plupart des manoirs en bois. Très grand, les jardins clôturés étaient accessibles via un somptueux portail en fer forgé. Si les parterres de fleurs brillaient par leur absence, aucune variété ne semblait vouloir éclore ce printemps, la pelouse était plus verte que la moyenne. Hélas, le jaune et le marron dominaient toujours, mais on distinguait par endroits des poches verdoyantes. Les jardiniers ne lésinaient pas sur leurs efforts, comme en témoignaient les rangées d'ifs taillées en forme d'animaux de légende. La maison elle-même n'avait rien à envier à toute une théorie de palais. En ville, il y en avait un, bien entendu, qui appartenait au roi. Mais de notoriété publique, il n'arrivait pas à la cheville des résidences des membres du Conseil des marchands. Jaune et noir, l'étendard qui battait au vent sur le toit annonçait qu'on approchait du fief de la maison Tchadma. Mélissaire avait peut-être vu le départ des autres conseillers comme une bonne occasion. Eh bien, tout ce qu'elle y avait gagné, c'était la chance de devenir la prisonnière du dragon réincarné. Le portail principal étant ouvert, les aïels de Rand fonçaient déjà retrouver et saluer des membres de leur tribu ou de leur ordre guerrier. Pour eux, attendre des consignes était une notion quasiment exotique. Mais il fallait faire avec. Leur demander de patienter, par exemple, aurait été salué par des fous rires, comme si leur caracarne avait enfin réussi à faire une blague à Gaëlle. Vouloir contraindre des aïels à se comporter comme des gens des terres mouillées revenait à rêver éveillé. De fil en aiguille, Rand pensa à Avienda. Où était-elle partie si brusquement? Dans le lien, il la sentait, mais comme si elle était très loin de lui, à l'est. Mais qu'allait-elle faire dans le désert? Rand secoua la tête. Si toutes les femmes étaient difficiles à comprendre, avec une Aiel, il fallait multiplier par 10 le degré de complexité. Il avait espéré pouvoir passer un peu de temps avec elle. Hélas, elle s'était acharnée à l'éviter. Bien sûr, la présence de Mine y était peut-être pour quelque chose. Avant de mourir, allait-il réussir à ne pas faire souffrir cette femme-là? Loin de lui, Avienda ne risquerait rien, car ses ennemis n'étaient pas informés de ce qu'il y avait entre eux. Rand fit franchir le portail à taille d'Aïchar, puis il remonta l'allée qui menait à la maison. Une fois arrivé, il mit pied à terre, récupéra la statuette et la glissa dans une grande poche de sa veste, conçue spécialement pour cet usage. Enfin, il confia ses rênes à un garçon d'écurie en veste verte et chemise de soie blanche. Tous les domestiques étaient prévenus. En ces lieux, Rand Altor allait faire comme chez lui. Rien d'illogique, puisque l'ancienne occupante était placée sous sa protection. Dobrain grimpa aux côtés de Rand les marches qui menaient à l'entrée. Un bel escalier blanc, des colonnes de bois encadrant le palier d'honneur. Rand franchit la double porte d'entrée. Même après avoir vécu dans plusieurs palais, il fut impressionné et révulsé. L'opulence que dissimulait la double porte contrastait trop avec la détresse et la misère des citadins. Dans le hall, deux rangées de domestiques, très nerveux, faisait une haie d'honneur à leur nouveau maître. Rand capta aussitôt leur terreur. Le dragon réincarné n'annexait pas une demeure tous les jours. Rand retira son gant d'équitation en coinçant sa main entre son bras et sa hanche, puis il le glissa dans sa ceinture.
« Où est-elle ? »
demanda-t-il aux deux promises, Beralna et Rialine, qui gardaient un œil sur les domestiques.
« Troisième niveau, »
répondit Rialine.
« Elle boit une infusion, la main si tremblante qu'on peut craindre pour l'avenir de sa tasse. »
« On lui répète qu'elle n'est pas prisonnière, »
dit Beralna.
« Simplement, elle n'a pas le droit de partir. »
Les deux aïels trouvèrent la saillie amusante. Apercevant Rouark du coin de l'œil, Rand se tourna pour le saluer. La porte franchie, le chef de tribu étudia le hall, son regard s'attardant sur les chandeliers et les vases précieux. Rand devina à quoi il pensait.
« Vous pouvez prendre le cinquième, » dit-il, « mais seulement aux riches de ce secteur. »
En principe, ça ne fonctionnait pas comme ça. Les aïels auraient dû avoir droit au cinquième de tout. Mais Rouark ne discuta pas, parce que les guerriers du désert, même s'ils avaient dû affronter des bandes de truands, n'avaient pas vraiment conquis Bandareban. En toute logique, ils n'auraient rien dû avoir. Mais dans les demeures comme celle-là, ils pourraient quand même se servir, en respectant le cadre très strict fixé par Rand, bien sûr. Les promises acquiescèrent, comme si elles s'attendaient à cette décision, puis elles s'égayèrent, sans doute pour choisir leur butin. Dobraine les regarda sans cacher sa consternation. Au Caerien, les aïels avaient sévi en 5 occasions.
« Je ne comprends pas pourquoi tu les laisses piller comme des bandits qui profitent du sommeil des gardes d'une caravane !»
dit Corel en entendant le hall, sourire aux lèvres. Découvrant le décor, elle arqua un sourcil.
« Surtout dans un si bel endroit. C'est comme autoriser des soldats à piétiner un champ de fleurs, non ?»
Corel était-elle venue pour Amadouiran après qu'il eut rudoyé Mérise ? En tout cas, elle le regarda, tout charme dehors, mais finit par se détourner quand elle comprit qu'elle n'obtiendrait rien. À une époque, le coup du silence ne réussissait jamais avec les Aes Sedai. Rand se tourna vers Dobraine.
« Tu as bien travaillé, » lui dit-il, « même si tu n'as pas exécuté tes consignes dans leur totalité. Bon, rassemble tes soldats. Narishma a ordre d'ouvrir pour vous un portail donnant sur Théar. »«
Théar, seigneur ?
Vraiment ? Vraiment. Dis à Darlin de ne plus me bombarder de messagers. Qu'il rassemble lui aussi ses troupes. Je l'affecterai en Arad Doman dès que le moment semblera propice. »
Après la rencontre avec la fille des Neuf Lunes, un événement qui serait déterminant. Dobraine parut dépité, ou était-ce seulement une impression? En règle générale, le Caerienien n'était pas très expressif. Pensait-il ne plus avoir aucune chance de régner sur l'Arad Doman? Complotait-il contre Rand?
Oui, seigneur. Je suppose que je dois partir au plus vite.
Dobraine ne m'a jamais donné de raison de douter de lui. Il a même trouvé des soutiens à Elaine pour sa quête du trône du soleil. Rand était resté loin de Dobraine pendant longtemps. Trop longtemps pour lui faire confiance, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il jugeait préférable de l'écarter pour le moment. Il avait eu largement le temps de s'installer ici, et aucun Caerienien n'aurait résisté à la tentation d'importer en Arad Doman le grand jeu des maisons.
« Oui, départ dans moins d'une heure, » dit Rand.
Dobraine salua, stoïque comme à l'accoutumée, fit demi-tour et s'en fut. Une obéissance immédiate, sans un mot pour se plaindre. Celui-là, c'était vraiment infidèle. En réalité, Rand n'en avait jamais douté. « Lumière, ne me laisse pas dériver. Il faut que je me fie à quelques personnes, pas vrai ?»«
Te fier ?» souffla Loustérine. « Oui, cet homme-là, on peut lui faire confiance, parce qu'il est incapable de canaliser le pouvoir. En fait, les seuls dont on doit se méfier, c'est nous-mêmes. »
Rand serra les dents. Si Al-Salam restait introuvable, la couronne reviendrait à Dobraine. Par bonheur, Ithurald n'en voulait pas. Rand s'engagea dans l'escalier qui menait aux étages. Jusqu'au premier palier, les marches étaient droites. Puis elles se séparaient pour former 2 volées latérales jusqu'au second.
« Il me faut une salle d'audience, »
dit Rand au serviteur toujours massé dans le hall.
« Et un trône. Très vite !»
Moins de 10 minutes plus tard, assis dans un salon somptueusement décoré et merveilleusement douillet, Rand attendait qu'on veuille bien lui amener la marchande Mélissaire Tchadmar. Son fauteuil en bois blanc élégamment sculpté n'avait rien d'un trône, mais pour le moment, il ferait avec. Qui sait? Mélissaire l'utilisait peut-être aussi pour donner des audiences. Au moins, le salon était conçu comme une salle du trône miniature, avec une estrade où se dressait le fauteuil. Comme ce piédestal, le sol était couvert d'un tapis vert et rouge au motif fantaisiste, un écrin parfait pour les porcelaines du peuple de la mer exposées à chaque coin de la pièce. Derrière Rand, 4 grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du jour. Légèrement penché en avant, un bras sur ses genoux, le jeune homme sentait dans son dos la chaleur des rayons du soleil. Devant lui, sur le sol, il avait posé la figurine. Mélissaire Tchadmar apparut, passant entre les aïels qui gardaient la porte. Comme prévu, elle portait une de ses légendaires robes d'Omani. La couvrant du cou jusqu'à la pointe des pieds, le vêtement presque transparent collait à chacune des courbes de la marchande, qui en était généreusement pourvue. Assortie à sa robe verte, elle portait un magnifique collier de perles. Ses cheveux noirs, en boucles serrées, encadraient harmonieusement son visage, puis tombaient au-delà de ses épaules. Rand ne s'attendait pas à une femme si jeune, la 30aine au maximum. S'il était obligé de l'exécuter, quel dommage ce serait.
Aussitôt arrivé, et je pense déjà à faire tuer une femme si elle n'est pas d'accord avec moi. Il fut un temps où je ne me résignais pas à voir mourir de vrais criminels. Mais il ferait ce qui s'imposait.
La révérence de Mélissaire, très accentuée, laissait espérer qu'elle se plierait à son autorité. Ou était-ce une astuce pour offrir au dragon réincarné une vue plongeante sur ses charmes? Un comportement typique de Domani. Malheureusement pour la belle, il avait déjà avec les femmes trop de problèmes qu'il ne savait comment gérer.
« Seigneur dragon, »
dit Mélissaire en se relevant,
« comment puis-je te servir ?»
À quand remonte ton dernier contact avec le roi Al-Salam ?
Délibérément, Rand n'invita pas sa visiteuse à s'asseoir.
Le roi ? Il y a des semaines.
Je voudrais parler avec le messager qui t'a apporté sa dernière missive.
Je ne suis pas sûr de pouvoir le trouver. Seigneur, je ne retrace pas les déplacements de tous les messagers de la ville.
Rand se pencha en avant.
Serais-tu en train de me mentir ? Demanda-t-il d'un ton égal.
Mélissaire en resta bouche bée, sans doute tétanisée par tant de franchise. Contrairement aux Kyrieniens, doués de naissance pour les coups tordus de la politique, les Domani privilégiaient la simplicité. Mais il n'en restait pas moins un peuple subtil, surtout les femmes. Rand ne se montrait jamais subtil ni rusé. Berger reconverti en conquérant, il avait le cœur d'un gars de deux rivières, même si du sang aïel coulait dans ses veines. Si Mélissaire voulait l'engluer dans une toile politique, elle n'avait aucune chance de réussir. Les jeux, il détestait ça.
Seigneur Dragon.
Que cachait donc cette femme?
Qu'as-tu fait à ce messager? Demanda Rand sur une intuition.
Il ne savait pas où était le roi, répondit très vite Mélissaire. Mais les enquêteurs sont formels.
Le pauvre type est mort?
Non, Seigneur Dragon.
Alors peux-tu me le faire amener?
Mélissaire devint blafarde. Peut-être pour trouver une issue, elle regarda d'un côté puis de l'autre.
« Seigneur Dragon, »
dit-elle en fixant de nouveau Rand.
« Maintenant que tu es là, le roi restera peut-être caché. Qui sait, il vaut mieux ne plus le chercher. »
Elle pense aussi qu'Al-Salam est mort, et ça l'a incité à prendre des risques.
« Nous devons trouver Al-Salam, » dit Rand. « Ou au moins, savoir ce qui lui est arrivé. C'est indispensable pour que vous puissiez choisir un nouveau roi. » C'est comme ça que ça se passe, non?
Je suis sûr que tu seras couronné très vite, Seigneur Dragon.
Moi? Non, je ne régnerai pas ici. Fais-moi amener ce messager, Mélissaire, et tu vivras peut-être assez longtemps pour connaître le nouveau souverain. À présent, retire-toi.
Mélissaire hésita, puis elle s'inclina de nouveau et s'en fut. En la suivant du regard, Rand vit que Mine se tenait sur le seuil avec les promises. À son air troublé, il se demandait si elle avait vu des images autour de la marchande. Il voulut lui dire de le rejoindre, mais elle se détourna et partit d'un pas vif. Elle aussi, sur le seuil, Alivia la regarda s'éloigner en arquant un sourcil. L'ancienne Daman se tenait à l'écart ces derniers temps. On eût dit qu'elle attendait de pouvoir accomplir son destin en aidant Rand à mourir. Le jeune homme se leva d'un bond. Cette ombre dans le regard de Mine, était-elle furieuse contre lui? Se souvenait-elle de son genou la maintenant au sol pendant qu'il l'étranglait? Rand se rassit. Mine devrait attendre.
« Très bien, » fit-il, s'adressant aux promises. « Amenez-moi les scribes et les intendants. Plus Rouark, Baël et tous les notables de la ville qui n'ont pas fichu le camp ou ont survécu aux émeutes. Il faut mettre au point le plan de distribution du grain. »
Les Aïels envoyèrent des messagères. Un peu détendu, Rand s'adossa à son siège. Bientôt, le peuple n'aurait plus faim, l'ordre serait établi et il convoquerait le conseil des marchands. Ainsi, il s'occuperait du choix d'un nouveau roi. Certes, mais il découvrirait aussi où était allé Al-Salam. Car c'était là, lui soufflait son instinct, qu'il aurait les meilleures chances de trouver Grendal. S'il la débusquait, il la tuerait avec la même arme que ses mirages. Oui, il ferait ce qu'il faudrait faire.